à Aix, Aix-les-Bains, si je ne me trompe pas. Mmh. Ensuite, pasteur à l'ECE, aussi, si j'essaie d'avancer. Ouais. À Grenoble, tout à fait, je dis l'ECE, mais c'est à Grenoble, effectivement. Il a aussi écrit, donc c'est un auteur, et c'est quelque chose qui est appréciable. J'ai lu son livre, qui est vraiment génial, donc, pas de pub, mais voilà. Et donc du coup, voilà, il a aussi beaucoup de ministères. Il travaille beaucoup avec Tout pour sa gloire. Je ne sais pas si certains connaissent ce site, Tout pour sa gloire, qui propose de nombreuses ressources aussi. Il travaille aussi maintenant avec des instituts et des facs théologiques. Et donc c'est quelqu'un qui est bien pris. Et on le remercie vraiment d'avoir accepté de dégager ce temps pour pouvoir venir nous apporter la parole de Dieu. Et donc voilà, vraiment, au nom de l'Église, je voulais le remercier. Et bien entendu, je vais prier pour que le Seigneur puisse nous parler. Raphaël est un instrument entre les mains du Seigneur, et c'est à Dieu que doit revenir toute la gloire. Donc vraiment, on va prier pour que Dieu nous parle à nos cœurs, utilise Raphaël encore une fois pour qu'on puisse être encouragé, qu'on puisse être édifié, et surtout qu'on puisse être enseigné. Seigneur, merci parce que tu utilises des personnes qui ne sont que des hommes, mais que tu utilises admirablement pour pouvoir enseigner ce que tu as enseigné à ton peuple. Merci Seigneur parce que ta parole est une parole qui est vivante. Merci parce qu'elle touche les cœurs, elle nous transforme, et à nous charge de nous laisser transformer par elle. À nous charge de pouvoir être ouverts, de pouvoir entendre ce que tu as à nous enseigner. Et ce matin, je veux vraiment remettre entre tes mains Raphaël et ce qu'il dira, pour qu'il puisse lui être humblement un outil entre tes mains pour pouvoir nous transmettre ce que tu as à nous transmettre ce matin. Que tu puisses parler par sa bouche et nous enseigner. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous. J'étais venu une fois, il y a peut-être 7 ou 8 ans, je pense. Mais j'ai eu l'occasion de recroiser un certain nombre d'entre vous dans différents camps de vacances ou congrès. Et donc, c'est une joie de retrouver l'Église et de voir que, on dirait que ça va. Donc, je suis content d'être avec vous. Alors, j'ai proposé à Jérémie un texte du livre de l'Ecclésiaste. Il a dit, d'accord, donc, préparez-vous. Les générations qui nous ont précédés ont été convaincues que si on enlevait Dieu de notre vie, cela nous délivrerait d'un carcan moraliste qui nous empêche d'être heureux. Le carcan de la religion, que libérés de son étreinte, nous pourrions enfin trouver les vraies sources de bonheur dans ce monde. Enfin, nous pourrions vivre libres, et c'est grâce à cette liberté que nous serions totalement épanouis. Nous étions convaincus que l'homme était quelque chose de fondamentalement bon, qu'il pouvait construire une société meilleure sans Dieu. Et donc, nous avons tout misé sur nous-mêmes. Quand on regarde ce qui se passe en ce moment dans notre monde et dans la société occidentale, et l'actualité du moment est particulièrement parlante, on fait le résultat des comptes et on se dit, finalement, était-ce le bon choix? Il y a quelque temps, je traversais le pont pour rentrer dans Grenoble. Ceux qui connaissent Grenoble, j'imagine la plupart d'entre vous êtes déjà venus au moins une fois dans cette belle ville, la plus belle peut-être de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Quand on arrive à Grenoble, il y a un pont et c'est le pont unique par lequel on rentre dans le centre-ville. Et sur ce pont, il y a un graffiti où il est écrit « On croit en Dieu comme on croit que la vie est belle, sans preuve formelle. » On croit en Dieu comme on croit que la vie est belle, sans preuve formelle. Cette phrase, à elle seule, fait la synthèse de notre société désenchantée, sécularisée, qui est revenue de tout. Pourtant, par rapport aux générations passées, quand on prend le temps de réfléchir, nous vivons dans un bien plus grand confort. Nous n'avons jamais eu autant de savoir et de technologie à nos dispositions pour nous faciliter la vie. Nous n'avons jamais eu autant de loisirs, de spectacles, de consommation et de distractions, et autant de lois qui peuvent nous protéger de différents dangers. Malgré tout cela, nous ne trouvons pas que la vie soit belle. Et l'avenir nous fait craindre le pire. Nous sommes toujours dans cette quête de sens, de solution et de bonheur, et nous ne sommes pas satisfaits. Alors comment vivre dans un monde qui ne peut nous satisfaire? Je crois que c'est pour répondre à cette question que Dieu nous a donné dans la parole, dans la Bible, le livre de l'Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste pose la question comment vivre dans un monde qui ne peut nous satisfaire. Avant d'entrer dans le texte, je voudrais simplement introduire ce beau livre qui fait partie du corpus, de l'ensemble des textes, des livres que nous avons dans la Bible, qu'on appelle la littérature de sagesse. Dans les livres de sagesse, nous avons des livres très connus comme les livres des psaumes, le livre du proverbe, les livres de Job, les cantiques des cantiques, et nous avons aussi l'Ecclésiaste. Chacun d'eux est là pour nous aider à comprendre un peu plus comment vivre avec sagesse. Dans la Bible, nous avons tous les textes de la loi qui nous expliquent les commandements de Dieu et comment nous devons vivre. Nous avons les prophètes qui nous rappellent les promesses de Dieu et qui nous rappellent ce que Dieu a fait dans le temps et ce qu'il fera. Nous avons des lettres des apôtres qui nous expliquent ce qu'est la doctrine chrétienne. Et nous avons les livres de sagesse qui, eux, sont ancrés dans l'expérience du quotidien, qui sont les pieds sur terre. La littérature de sagesse tient pour acquis les commandements de Dieu, mais se pose la question de comment les appliquer dans notre vie. Le livre des Proverbes, par exemple, qui est le plus connu dans les livres de sagesse, que nous aimons beaucoup, il est noir ou blanc, le juste, le fou, le sage, le méchant. Le livre de l'Ecclésiaste, lui, dit « tout est gris, tout est en nuances ». Le livre de l'Ecclésiaste nous dit « si la loi de Dieu est la règle que nous devons utiliser, comment utiliser cette règle dans un monde où tout est tordu, où rien n'est droit ? Comment on fait pour appliquer cette loi de Dieu dans ce monde si complexe ?» Le terme de l'Ecclésiaste se traduit par « prédicateur, prédicateur de l'Assemblée ». Le livre a donc vraiment une portée pastorale. L'auteur veut enseigner le peuple de Dieu à vivre avec sagesse. Il veut nous transmettre sa sagesse qu'il a acquise. L'Ecclésiaste est l'un des personnages de la Bible à qui nous pouvons le plus nous identifier et paradoxalement, l'un de ceux que l'on comprend le moins. On s'identifie à lui parce que, il a poursuivi plein d'expériences pour trouver la sagesse dans sa vie. Et nous pouvons nous identifier car nous aussi, nous cherchons à mieux vivre comme lui. Mais on ne le comprend pas parce qu'on a du mal à accepter ses conclusions. Je pense que nous manquons de nuances et lui veut nous amener à avoir une vision du monde beaucoup plus nuancée, beaucoup plus subtile que celle que nous faisons, qui est parfois caricaturale. L'Ecclésiaste est un personnage atypique. Dans les Écritures, nous avons des auteurs comme Ésaïe qui nous dressent une fresque merveilleuse, glorieuse, des promesses de Dieu quant au Messie par rapport à son peuple défaillant. Nous avons un architecte comme l'apôtre Paul qui lui bâtit une autoroute qui nous décrit l'évangile et le salut. Nous avons David qui est un artiste qui nous dresse des tableaux merveilleux dans les livres des psaumes pour nous permettre de comprendre qui est Dieu. Et nous avons l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, lui, ressemble à un homme assez louche qui se tiendrait à l'angle d'une ruelle sombre, un soir où il pleut, il ne fait pas beau, c'est inquiétant, et il nous dit « Viens, suis-moi, fais-moi confiance, moi je vais te montrer la vie. » Et on n'a pas envie de le suivre. On n'a pas envie de le suivre, cet homme-là. Mais l'Ecclésiaste veut nous décrire avec réalisme la vie telle qu'elle est. Il observe les effets de la chute sur la vie humaine et souligne toute la complexité et les contradictions que génère le péché dans notre expérience de la vie. L'Ecclésiaste nous raconte sa quête pour apprendre à vivre avec sagesse. Il voulait donc que son écrit, son livre, soit complexe et déroutant, précisément parce qu'il observe un monde autour de lui qui est complexe et déroutant. L'Ecclésiaste nous expose la quête d'un homme qui a cherché le bonheur dans tout ce que le monde propose, qui a obtenu tout ce que le monde lui proposait, pour au final se rendre compte qu'il ne possédait rien. Il nous rappelle que les choses ne sont souvent pas ce qu'elles devraient être, car nous vivons dans un monde qui ne fonctionne pas comme il le devrait. Il veut qu'on se mette à sa place, qu'on chemine avec lui, étape après étape, en acceptant de se laisser déranger par ses conclusions. Il veut nous montrer le monde à travers ses yeux, et l'Ecclésiaste nous dit que les jours mauvais sont normaux, qu'ils font partie de la vie. L'une des phrases qui pourrait résumer à elle seule le livre de l'Ecclésiaste, c'est la vie. C'est la vie, nous dit l'Ecclésiaste. Nous rencontrons des périodes difficiles, des périodes qui nous déçoivent, l'Ecclésiaste nous dit, ben, c'est la vie. Et c'est tout. Alors on ne comprend pas, on est frustré. Mais nous devons accepter d'être dérangés par sa pédagogie. L'Ecclésiaste le fait afin de nourrir notre espérance en la bonté de Dieu et nous enseigne que ce n'est qu'en vivant sous le regard de Dieu que nous aurons une perspective juste et bonne de la vie sous le soleil. On lit le livre de l'Ecclésiaste ensemble ? Je vous invite à l'ouvrir et nous allons lire les 11 premiers versets de ce livre. Donc au chapitre 1, les versets 1 à 11. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste. Comble de l'inconsistance. Tout n'est que fumée. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre arrive, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après l'endroit d'où il se lève à nouveau. Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie, et ils continuent d'aller vers leur destination. Tout est en mouvement plus qu'on ne peut le dire. L'œil ne sera jamais rassasié de voir, et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. Ce qui a existé, c'est ce qui existera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, « Regarde ceci, c'est nouveau !» En réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. La thèse de tout le livre nous est donnée au verset 2. « Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. » L'inconsistance, le mot revient 38 fois dans le livre, c'est une véritable litanie, c'est un refrain, il veut que le mot nous reste dans la tête. Les anciennes traductions plus littérales traduisent par « vanité des vanités ». La traduction littérale est celle du souffle, de la vapeur. Pensez à la fumée au-dessus de la casserole qui disparaît comme elle apparaît. L'Ecclésiaste l'utilise comme une image, une métaphore, de l'expérience humaine, une expérience de la vie. Ici, traduit par « inconsistance », la Bible du Semeur, elle traduit par « dérisoire », tant d'illusions que nous nous faisons sur la vie que l'auteur veut venir enlever. Que veut-il dire par là que la vie est inconsistante, qu'elle n'est que vanité? Bien que l'essence de la vie ait un sens, puisqu'elle est donnée par Dieu, et qu'elle ait une signification, puisque nous sommes créés par Dieu justement, tout ce que nous expérimentons dans notre vie est inconsistant, insignifiant, éphémère, fugace, mais aussi décevant et frustrant, nous dit l'Ecclésiaste. Tout ce que nous faisons n'a autant de persistance dans le temps et de solidité qu'un souffle dans le froid de l'hiver. Rien ne demeure réellement et rien ne peut nous satisfaire réellement. Comme dit un des commentateurs que j'ai beaucoup apprécié sur ce livre, Gibson, il dit ceci, « Tous nos projets de vie sont aussi solides que des bulles de savon. Tous nos projets, nos certitudes sont des bulles de savon, et l'Ecclésiaste est l'aiguille qui vient percer toutes ces bulles les unes après les autres. Pop, pop, pop. Il veut nous décourager. Mais si nous voulons grandir avec sagesse, nous devons accepter ce fait, selon l'Ecclésiaste, que la vie est frustrante, que la vie est décevante. Tout est-il réellement vain? Bien sûr que non, Dieu n'est pas inconsistant et ne fait rien qui soit dérisoire. Tout n'est pas vain donc dans l'absolu pour l'Ecclésiaste, mais sous le soleil. C'est le cadre qui définit l'expérience de la vie humaine. L'Ecclésiaste parle de l'expérience que nous faisons dans le monde tel qu'il est depuis la chute et tel qu'il demeurera jusqu'à ce que le péché en ait disparu. Le livre de l'Ecclésiaste est en fait un commentaire entier de Genèse chapitre 3. Il nous explique toutes les conséquences et il explore toutes les ramifications du péché dans l'expérience humaine. Dans notre expérience, la vie sous le soleil est frustrante, énigmatique, incompréhensible, bien qu'elle ait toujours un sens et une signification. Nous vivons dans un monde qui est dysfonctionnel. C'est la vie, nous dit l'Ecclésiaste. Le philosophe Mike Tyson a dit « On a tous un plan pour gagner quand on monte sur le ring, jusqu'à ce qu'on se prenne le premier coup de poing. » Eh bien, l'Ecclésiaste nous rappelle que la vie nous met des coups de poing. La question inévitable qui suit la thèse de l'Ecclésiaste est « À quoi bon? Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ?» Quel avantage, nous dit-il, si tout est dérisoire, pourquoi se donner tant de mal? Alors certes, nous retirons souvent des avantages à court terme de nos efforts, heureusement, mais ce n'est pas cela qui interroge l'Ecclésiaste. Il nous dit, ce que vous pensez avoir gagné par vos efforts disparaîtra bientôt de la terre comme un brouillard matinal, et tous vos efforts n'y changeront rien. Quel avantage? En définitive, pas grand-chose, nous dit l'Ecclésiaste. Et c'est la vie. C'est la vie. Tous les efforts que nous produisons ne peuvent nous arracher de notre condition humaine. C'est ce que veut nous enseigner l'Ecclésiaste. Et nous, chrétiens, avons peut-être tendance à croire que si nous vivons pieusement, que si nous sommes attachés au Seigneur, eh bien, nous pourrions passer à travers les gouttes. Mais l'Ecclésiaste nous rappelle que non. Et cette idée-là est poussée à fond dans les mouvements de la théologie de la prospérité. Ceux qui sont vraiment attachés à Dieu, ceux qui sont vraiment vertueux, ceux qui sont vraiment pieux, ont des vies qui sont remplies de succès et ne connaissent jamais d'épreuves. Mais ils n'ont pas lu l'Ecclésiaste. Nous ne pouvons pas reconstruire l'Éden. Voilà ce que nous dit l'Ecclésiaste. Nous ne pouvons pas retourner en Éden. Et une partie de l'apprentissage de la vie consiste simplement à accepter cela. En acceptant cela, nous devenons sages. Mais on croit qu'on a le contrôle et que nos efforts paieront. L'Ecclésiaste nous dit, mais croire cela, c'est une vanité. Mon voisin, que j'aime beaucoup, il s'appelle Patrice, je change le prénom. Patrice a un mariage pas très facile. Patrice a un patron vraiment pas sympa. Patrice travaille beaucoup dans une entreprise qui fonctionne pas vraiment bien. Mais Patrice, il aime quelque chose, c'est la pétanque et c'est les vacances. Alors Patrice, il travaille toute l'année comme un chien, selon ses mots, pour un truc qui est sacré, c'est les vacances. On ne touche pas aux vacances de Patrice. Alors Patrice fait des économies tout au long de l'année avec sa femme et choisit scrupuleusement le meilleur endroit pour jouer à la pétanque et profiter des vacances. Et l'été dernier, Patrice avait trouvé le plan parfait dans le sud de la France, dans un village de vacances. Il était content parce qu'il me dit « Mes enfants vont être pris en charge, ils ne vont pas me saouler pendant une semaine. Ma femme pourra lire ses magazines au bord de la piscine et elle ne me prendra pas la tête. Et moi, je vais aller jouer à la pétanque, boire du rosé, profiter du soleil de la Provence. » Génial ! Je croise Patrice à la fin des vacances, en train de décharger les affaires du coffre, en pétard, en train de crier sur sa femme, sur ses gosses et tout. Il dit « Waouh !» Alors, ces vacances, Patrice, il dit « M'en parle pas !» Il a plu. Les moustiques. Le club des vacances, les gamins faisaient que pleuvoir. Ils nous ramenaient les gamins. On a dû s'occuper de nos gamins pendant les vacances. Et avec ma femme, on n'a pas arrêté de s'embrouiller. Il me dit, mais et tout ça pour ça? Tout ça pour ça? Et il reprenait son année dégoûté. S'il avait croisé l'Ecclésiaste, il aurait dit, bah, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. On croit qu'on mérite des choses, qu'on va être récompensé, qu'on va avoir du succès, qu'enfin, ces bons moments, on va les vivre. Et puis en fait, non. Combien de chercheurs consacrent leur vie à un projet scientifique, mais ne parviennent jamais à une découverte significative? À chaque fois qu'on fait le ménage, il suffit de quelques minutes parfois pour faire tomber une bouteille d'huile d'olive et devoir recommencer le travail. On lit de nombreux livres, on suit de nombreux cours pour avoir un diplôme, et puis finalement on oublie tout, et peut-être qu'on ne vivra même pas dans ce travail-là et qu'on se fera licencier. On travaille dur pour obtenir une promotion, mais on va être constamment surpassé par des collègues moins méritants. En 6 siècles, 140 millions de livres ont été publiés. 40 000 livres sont publiés chaque année en France en moyenne. Tous ces auteurs se sont donné tant de mal, tant d'heures de recherche, d'études, d'écriture, de travail passionné. Vous avez lu combien de livres, vous, cette année? Et sur les livres que vous avez lus, combien vous ont vraiment intéressé et qu'est-ce que vous en avez retenu? C'est la vie. En France, cette année, combien de maisons et de voitures ont été détruites en une nuit de tempête ou d'inondation? Combien de châteaux que l'on croyait à l'épreuve du temps sont aujourd'hui des ruines? Pensons encore à l'exemple du Covid. La recherche a fait beaucoup d'efforts pour sauver des vies, mais au final, toutes ces personnes vont mourir. Une maladie peut perdre une bataille, mais la mort gagnera toujours la terre, la guerre. 100% des médecins, quand on y réfléchit, perdent 100% de leurs patients. C'est la vie. La guerre n'a jamais fait augmenter le nombre de morts. Oui, on meurt tous. Mais notre problème est que nous ne voulons pas accepter que la vie soit une chose très frustrante. Nous nous confortons grâce à des dictons. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide, il faut le voir à moitié plein. Mais l'Ecclésiaste dit, mais non, mais vous n'avez pas compris. Le problème, c'est qu'il est rempli à moitié. C'est la moitié le problème. C'est ça qui est problématique. Une de perdue, 10 de retrouvée. Non, une de perdue, nous dit l'Ecclésiaste. Toutes les histoires d'amour se finissent par une rupture ou la mort de l'une des deux personnes. C'est la vie. Tout se finit mal. Nous pensons que si nous travaillons dur, nous finirons par réussir. Nous plaçons nos espoirs dans ce qui ne peut nous satisfaire. Et quand la vie se charge de nous rappeler que nous ne maîtrisons rien, eh bien nous sommes perdus et nous n'acceptons pas la frustration. Et je crois que c'est pour cela que tant de personnes tombent dans des dépendances. L'alcool, les médicaments, ou encore fantasmer sa vie derrière des réseaux sociaux factices, la pornographie, etc., etc., pour éviter les frustrations de la vie. Mais si nous n'acceptons pas que la vie est frustrante, nous ne mûrissons pas, nous ne grandissons pas, nous nous comportons toujours comme des enfants qui tapent du pied quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Bon, après ça va aller bien, je vous rassure. Ils se disent pourquoi on l'a invité. Ça va bien se finir. Mais il faut accepter d'être dérangé par l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste illustre notre fragilité avec la description poétique de cycle. Au verset 4, une génération s'en va, une autre arrive, et la terre est toujours là. Qui se souvient de ses parents, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents, de ses arrière-arrière-grands-parents. Je pensais aux commémorations des 80 ans du débarquement, avec ces derniers témoins qui sont là. On ne les connaît pas, et bientôt on aura juste des statistiques. Mais ce qui est pire encore, c'est que nous pensons pouvoir laisser quelque chose aux générations futures. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, dit l'Ecclésiaste, et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Et quand bien même on laisse une trace, quand bien même on laisse quelque chose, un héritage, quand on est mort, à quoi bon ? C'est encore une bulle de savon que l'Ecclésiaste vient percer. L'argent durement accumulé pour être légué sera peut-être dilapidé ou détruit par une inondation. Les photos de notre mariage, de notre vie, seront mises dans des boîtes par respect pour la génération qui suit, qui l'ouvrira peut-être une ou deux fois pour les montrer, et puis la génération suivante jettera les boîtes et nous disparaîtrons. C'est la vie. Alors on se dit, mais en tant que chrétien quand même, quand on fait des choses pour le Seigneur, ça laisse des traces, ça compte. Oui, bien sûr que ça compte, mais nous ne devons pas miser là-dessus. J'aime beaucoup cette citation des frères Moraves. Au XVIIIe siècle, un mouvement de missionnaires parti de l'Europe de l'Est qui a fait des choses extraordinaires. Les frères Moraves avaient pour devise « prêche, meurs, et soit oublié. Prêche, meurs et soit oublié. » Je pense qu'ils avaient médité le livre de l'Ecclésiaste. Ils avaient compris, ils ne faisaient pas leur ministère pour laisser quelque chose dans le temps, aux générations futures, mais simplement pour être fidèles. Nous avons fêté à Grenoble les 100 ans de l'ECE, lorsque j'étais pasteur dans cette église. Et l'ECE a eu 100 ans, et c'est la première église évangélique de Grenoble. Et messieurs Squire, Molinier, Norris, Dormois sont les hommes qui ont implanté cette église, et certains venaient de Lyon d'ailleurs. Mais aucun des membres de l'église ne les connaissait. Aucun d'eux. Prêche, meurs et sois oublié. L'Ecclésiaste nous dit, illustre encore ces cycles de la vie, cet oubli avec les cycles du soleil, du vent et de l'eau. Alors l'idée n'est pas de nous faire un cours de SVT, mais ces cycles sont là pour nous rappeler que la vie n'apporte que répétition sans que cela ne change quoi que ce soit. Comme tout est cyclique, il n'y a ni nouveauté ni issue, nous dit l'Ecclésiaste. N'y a-t-il pas des progrès médicaux, sociaux, etc. ? Oui, bien sûr. L'Ecclésiaste lui-même a participé à des projets d'ampleur à son époque. Mais ce qui ne change pas, et ce que veut souligner l'Ecclésiaste, ce qui ne change pas, c'est la condition humaine. C'est la nature humaine, c'est le monde dans lequel nous vivons. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il n'y a rien de nouveau qui puisse briser le cercle de notre frustration et de notre insatisfaction. Aucune solution dans le monde, du monde, pour nous satisfaire et nous arracher à la vanité de ce monde. Le problème, nous dit l'Ecclésiaste, ne peut être la solution. Et les cycles montrent qu'en revanche, il y a une chose qui demeure. C'est que nous sommes insatiables. L'œil ne sera jamais rassasié de voir et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. Le comble du luxe de l'époque de l'Ecclésiaste est devenu l'indigence de nos jours, la misère. Mais comme une mer, comme la mer qui se jette dans l'océan sans le remplir, comme le vent qui tourne en rond sans cesse, comme le soleil qui court dans le ciel, nous n'arriverons jamais à la satisfaction ici-bas. Pourtant, nous faisons tout pour échapper, nous aussi, à des cycles qui nous frustrent. Le cycle métro-boulot-dodo. Nous croyons que si nous réussissons dans nos études, nous serons pleinement heureux, que si nous obtenons enfin ce chiffre de rémunération, nous vivrons sans frustration. Que si nous avions ce nouveau smartphone, nous serions enfin bien équipés, parce qu'il est temps de changer de téléphone. Si nous avions le double de vacances et si nous travaillions seulement 3 jours par semaine, nous aurions enfin assez de temps pour profiter en famille. Que si nous étions mariés, enfin nous serions satisfaits. Ou quand on est marié, si seulement j'étais marié plutôt avec un autre plutôt qu'avec le mien, enfin je serais satisfait. C'est sans fin. C'est sans fin. Que des bulles que l'aiguille de la réalité vient percer en nous laissant frustrés. Alors je résume. La vue est frustrante car, selon l'Ecclésiaste, nos efforts ne peuvent nous extraire de notre condition. La vie est frustrante car nous ne serons jamais rassasiés et que rien n'y changera. Et la vie est frustrante car, de toute façon, à la fin, nous mourrons. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt. L'Ecclésiaste est l'un des plus beaux livres de la Bible, je le crois. Qu'est-ce que l'Ecclésiaste veut que nous retenions de ce passage? Que veut-il nous enseigner? Eh bien, nous vivons comme des enfants qui construisent un château de sable sur la plage, ne voulant pas voir la marée qui est en train de monter et qui demeurent convaincus qu'ils sont au contrôle de leur vie. L'Ecclésiaste ne veut pas que nous vivions ainsi. L'artiste Aurel San le dit autrement, on se bat tous pour être à l'avant d'un avion qui va droit vers le crash. Se rappeler que la vie est frustrante et qu'elle se termine par la mort nous apprend à vivre avec sagesse, à ne pas placer des espérances dans ce qui ne peut nous satisfaire. Ce n'est pas morbide, c'est la réalité. Et si le monde ne change pas de génération en génération, qu'est-ce qui pourra briser le cycle infernal? Qu'est-ce qui peut nous délivrer de la vanité? Et c'est là que l'Ecclésiaste est magnifique, c'est qu'il nous pointe directement vers l'Évangile, en décrivant le monde dans lequel la venue de Jésus-Christ prend tout son sens. Aucune solution ne peut provenir de sous le soleil, nous dit l'Ecclésiaste. Notre délivrance ne peut venir que de la grâce de Dieu qui, lui, n'est pas soumis à la vanité. Il faut que Dieu intervienne et le plan de Dieu est de délivrer son peuple de la vanité sous le prisme de l'Ecclésiaste. En devenant homme, le Fils de Dieu s'est lui-même soumis à la vanité de ce monde pour nous offrir une espérance que la vanité de ce monde ne peut nous arracher. La seule chose qui ne peut nous être ôtée est ce que Jésus a fait pour nous. L'œuvre de la croix est la seule œuvre sous le soleil qui ne soit pas vaine. La mort de Jésus est la seule mort sous le soleil qui ne soit pas vaine et qui ait brisé ce cycle infernal. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Jésus a vaincu la mort et il nous délivre de vouloir à tout prix trouver la satisfaction dans ce monde et il nous apprend à accepter les jours mauvais. En vivant à sa suite, nous pouvons accepter de vivre en tant qu'étrangers et voyageurs. Comprendre que ce n'est pas dans cette vie que nous devons poser nos valises. Nous pouvons embrasser l'exil du peuple de Dieu. Nous pouvons accepter les frustrations de la vie et reconnaître que toutes les bonnes choses que Dieu nous donne pointent vers cet immense cadeau de l'œuvre de la croix. En suivant Jésus ici-bas, nous apprenons à vivre en portant notre croix et en profitant des choses simples. Jésus nous appelle à fixer les yeux sur lui pour arrêter de chercher une pleine satisfaction dans ce qui ne peut nous contenter. Et je crois que l'Ecclésiaste veut que nous réalisions que Dieu utilise la vanité de ce monde, car lui-même a soumis le monde à la vanité, nous dit Paul en Romains 8, verset 20. Que Dieu utilise la vanité de ce monde pour que nous comprenions que ce n'est qu'auprès de lui seul que nous pouvons trouver le véritable bonheur et sens dans notre vie, car nous avons été créés pour lui. Et je voudrais terminer en lisant ce passage très connu de C.S. Lewis, un célèbre auteur anglais, qui a dit ceci. Si nous considérons dans les évangiles les promesses extraordinaires de récompense et la nature exceptionnelle de celles-ci, nous pourrions penser que notre Seigneur juge nos désirs non pas trop audacieux, mais plutôt trop modestes. Nous sommes des créatures qui se contentent du médiocre, qui courent après la boisson, le sexe et la gloriole, alors que des joies infiniment plus élevées leur sont offertes. Nous ressemblons à un enfant qui persiste à vouloir trouver son bonheur en faisant des pâtés de boue au bord d'une flaque d'eau et qui refuse un séjour au bord de la mer parce qu'il ne peut le concevoir. Nous nous satisfaisons à bon compte trop facilement. Plus nous connaîtrons qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous, plus il sera glorifié dans nos vies, plus nous apprendrons à accepter les frustrations de cette vie, parce que nous avons des promesses extraordinaires en lui. Amen.
Merci, Raph.